Le capital.
Livre premier, le développement de la production capitaliste. Première section, la marchandise et la monnaie. Chapitre premier, la marchandise. Grand 1. Les deux facteurs de la marchandise, valeur d'usage et valeur d'échange, ou valeur proprement dite. Ouvrez la parenthèse, substance de la valeur, grandeur de la valeur. Fermez la parenthèse. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une, ouvrez les guillemets, immense accumulation de marchandises. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, 1859, page 4. Fin de la note de bas de page. Donc, la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises, entre guillemets. L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. La marchandise est d'abord un objet extérieur, une chose qui, par ses propriétés, satisfait des besoins humains de n'importe quelle espèce. Que ces besoins aient pour origine l'estomac ou la fantaisie, leur nature ne change rien à l'affaire. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Le désir implique le besoin. C'est l'appétit de l'esprit, lequel lui est aussi naturel que la faim l'est au corps. C'est de là que la plupart des choses tirent leur valeur. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Nicolas Barbon, A Discourse Concerning Coining the New Money Lighter, In Answer to Mr. Locke's Consideration, etc. London, 1696, pages 2 et 3. Fin de la note de bas de page. Donc, que ces besoins aient pour origine l'estomac ou la fantaisie, leur nature ne change rien à l'affaire. Il ne s'agit pas non plus ici de savoir comment ces besoins sont satisfaits. Soit immédiatement, si l'objet est un moyen de subsistance, soit par une voie détournée, si c'est un moyen de production. Chaque chose utile, comme le fer, le papier, etc., peut être considérée sous un double point de vue, celui de la qualité et celui de la quantité. Chacune est un ensemble de propriétés diverses et peut, par conséquent, être utile par différents côtés. Découvrir ces côtés divers et, en même temps, les divers usages des choses est une œuvre de l'histoire. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Les choses ont une vertu intrinsèque. Ouvrez la parenthèse. Virtue. Telle est chez Barbon la désignation spécifique pour valeur d'usage. Fermez la parenthèse. Qui en tout lieu ont la même qualité, comme l'aimant, par exemple, attire le fer. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Locke cite, page 16. Fermez la parenthèse. La propriété qu'a l'aimant d'attirer le fer ne devint utile que lorsque, par son moyen, on eut découvert la polarité magnétique. Fin de la note de bas de page. Donc, découvrir ses côtés divers et, en même temps, les divers usages des choses est une œuvre de l'histoire. Telle est la découverte de mesures sociales pour la quantité des choses utiles. La diversité de ces mesures des marchandises a pour origine en partie la nature variée des objets à mesurer, en partie la convention. L'utilité d'une chose fait de cette chose une valeur d'usage. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Ce qui fait la valeur naturelle d'une chose, c'est la propriété qu'elle a de satisfaire les besoins ou les convenances de la vie humaine. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. John Locke, Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interests, 1691. In Works, Londres, 1777, tome 2, page 28, fermez les parenthèses. Au XVIIe siècle, on trouve encore souvent chez les écrivains anglais le mot « worth » pour « valeur d'usage » et le mot « value » pour « valeur d'échange », suivant l'esprit d'une langue qui aime à exprimer la chose immédiate en termes germaniques et la chose réfléchie en termes romans. Fin de la note de bas de page. Donc, l'utilité d'une chose fait de cette chose une valeur d'usage. Mais cette utilité n'a rien de vague et d'indécis. Déterminée par les propriétés du corps de la marchandise, elle n'existe point sans lui. Ce corps lui-même, tel que fer, froment, diamant, etc., est conséquemment une valeur d'usage. Et ce n'est pas le plus ou moins de travail qu'il faut à l'homme pour s'approprier les qualités utiles qui lui donnent ce caractère. Quand il est question de valeur d'usage, on sous-entend toujours une quantité déterminée, comme une douzaine de montres, un mètre de toile, une tonne de fer, etc. Les valeurs d'usage des marchandises fournissent le fond d'un savoir particulier, de la science et de la routine commerciale. Note de bas de page. Dans la société bourgeoise, ouvrez les guillemets, nul n'est censé ignorer la loi, fermez les guillemets. En vertu d'une fictio iuris, fiction juridique, économique, tout acheteur est censé posséder une connaissance encyclopédique des marchandises. Fin de la note de bas de page. Donc, les valeurs d'usage des marchandises fournissent le fond d'un savoir particulier, de la science et de la routine commerciale. Les valeurs d'usage ne se réalisent que dans l'usage ou la consommation. Elles forment la matière de la richesse, quelle que soit la forme sociale de cette richesse. Dans la société que nous avons à examiner, elles sont en même temps les soutiens matériels de la valeur d'échange. La valeur d'échange apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'espèces différentes s'échangent l'une contre l'autre. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. La valeur consiste dans le rapport d'échange qui se trouve entre telle chose et telle autre, entre telle mesure d'une production et telle mesure des autres. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, le trône de l'intérêt social, in Physiocrate, édition d'Air, Paris, 1846, tome 12, page 889, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, la valeur d'échange apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'espèces différentes s'échangent l'une contre l'autre. Rapport qui change constamment avec le temps et le lieu. La valeur d'échange semble donc quelque chose d'arbitraire et de purement relatif. Une valeur d'échange intrinsèque, immanente à la marchandise, paraît être, comme dit l'école, une contradictio in adiecto. Une contradiction dans les termes. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Rien ne peut avoir une valeur intrinsèque. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. N. Barbon, Locke, page 16, fermez la parenthèse. Ou, comme dit Butler, the value of a thing is just as much as it will bring. La valeur d'une chose est juste autant que ce qu'elle rapporte. Fin de la note de bas de page. Donc, une valeur d'échange intrinsèque, immanente à la marchandise, paraît être, comme dit l'école, une contradictio in adiecto, une contradiction dans les termes. Considérons la chose de plus près. Une marchandise particulière, un quarteron de froment, par exemple, s'échange dans les proportions les plus diverses avec d'autres articles. Cependant, sa valeur d'échange reste immuable, de quelque manière qu'on l'exprime, en X cirage, X soie, Z or, et ainsi de suite. Elle doit donc avoir un contenu distinct de ces expressions diverses. Prenons encore deux marchandises, soit du froment et du fer. Quel que soit leur rapport d'échange, il peut toujours être représenté par une équation, dans laquelle une quantité donnée de froment est réputée égale à une quantité quelconque de fer. Par exemple, un quarteron de froment égale à 1 kg de fer. Que signifie cette équation? C'est que, dans deux objets différents, dans un quarteron de froment et dans 1 kg de fer, il existe quelque chose de commun. Les deux objets sont donc égaux à un troisième, qui par lui-même n'est ni l'un ni l'autre. Chacun des deux doit, en tant que valeur d'échange, être réductible au troisième, indépendamment de l'autre. Un exemple emprunté à la géométrie élémentaire va nous mettre cela sous les yeux. Pour mesurer et comparer les surfaces de toutes les figures rectilignes, on les décompose en triangles. On ramène le triangle lui-même à une expression tout à fait différente de son aspect visible, au demi-produit de sa base par sa hauteur. De même, les valeurs d'échange des marchandises doivent être ramenées à quelque chose qui leur est commun et dont elles représentent un plus ou un moins. Ce quelque chose de commun ne peut être une propriété naturelle quelconque, géométrique, physique, chimique, etc. des marchandises. Leur qualité naturelle n'entre en considération qu'autant qu'elle leur donne une utilité, qui en fait des valeurs d'usage. Mais d'un autre côté, il est évident que l'on fait abstraction de la valeur d'usage des marchandises quand on les échange, et que tout rapport d'échange est même caractérisé par cette abstraction. Dans l'échange, une valeur d'utilité vaut précisément autant que tout autre, pourvu qu'elle se trouve en proportion convenable. Ou bien, comme dit le vieux Barbon, ouvrez les guillemets, une espèce de marchandise est aussi bonne qu'une autre quand sa valeur d'échange est égale. Il n'y a aucune différence, aucune distinction dans les choses chez lesquelles cette valeur est la même. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. One sort of words are as good as another if the value be equal. There is no difference or distinction in things of equal value. Fermez les guillemets. Barbon ajoute: 100 livres sterling en plomb ou en fer ont autant de valeur que 100 livres sterling en argent ou en or. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. N. Barbon, Locke cite, page 7 et 53. Fin de la note de bas de page. Donc, comme le dit le vieux Barbon, ouvrez les guillemets, une espèce de marchandise est aussi bonne qu'une autre quand sa valeur d'échange est égale, il n'y a aucune différence, aucune distinction dans les choses chez lesquelles cette valeur est la même. Fermez les guillemets. Comme valeur d'usage, les marchandises sont avant tout de qualité différente. Comme valeur d'échange, elles ne peuvent être que de différentes quantités. La valeur d'usage des marchandises une fois mise de côté, il ne leur reste plus qu'une qualité, celle d'être des produits du travail. Mais déjà, le produit du travail lui-même est métamorphosé à notre insu. Si nous faisons abstraction de sa valeur d'usage, tous les éléments matériels et formels qui lui donnaient cette valeur disparaissent à la fois. Ce n'est plus, par exemple, une table, ou une maison, ou du fil, ou un objet utile quelconque. Ce n'est pas non plus le produit du travail du tourneur, du maçon, de n'importe quel travail productif déterminé. avec les caractères utiles particuliers des produits du travail, disparaissent en même temps et le caractère utile des travaux qui y sont contenus, et les formes concrètes diverses qui distinguent une espèce de travail d'une autre espèce. Il ne reste donc plus que le caractère commun de ces travaux. Ils sont tous ramenés au même travail humain, à une dépense de force humaine de travail, sans égard à la forme particulière sous laquelle cette force a été dépensée. Considérons maintenant le résidu des produits du travail. Chacun d'eux ressemble complètement à l'autre. Ils ont tous une même réalité fantomatique. Métamorphosés en sublimés identiques, échantillons du même travail indistinct, tous ces objets ne manifestent plus qu'une chose. C'est que dans leur production, une force de travail humaine a été dépensée, que du travail humain y est accumulé. En tant que cristaux de cette substance sociale commune, ils sont réputés valeur. Le quelque chose de commun qui se montre dans le rapport d'échange ou dans la valeur d'échange des marchandises est par conséquent leur valeur. Et une valeur d'usage ou un article quelconque n'a une valeur qu'autant que du travail humain est matérialisé en elle. Comment mesurer maintenant la grandeur de sa valeur ? Par le quantum de la substance, ouvrez les guillemets, créatrice de valeur, fermez les guillemets, contenue en lui, du travail. La quantité de travail elle-même a pour mesure sa durée dans le temps. Et le temps de travail possède de nouveau sa mesure dans des parties du temps, telles que l'heure, le jour, etc. On pourrait s'imaginer que si la valeur d'une marchandise est déterminée par le quantum de travail dépensé pendant sa production, plus un homme est paresseux ou inhabile, plus sa marchandise a de valeur, parce qu'il emploie plus de temps à sa fabrication. Mais le travail qui forme la substance de la valeur des marchandises est du travail égal et indistinct, une dépense de la même force. La force de travail de la société tout entière, laquelle se manifeste dans l'ensemble des valeurs, ne compte par conséquent que comme force unique, bien qu'elle se compose de forces individuelles innombrables. Chaque force de travail individuelle est égale à toute autre, en tant qu'elle possède le caractère d'une force sociale moyenne et fonctionne comme telle, c'est-à-dire n'emploie dans la production d'une marchandise que le temps de travail nécessaire en moyenne ou le temps de travail nécessaire socialement. Le temps socialement nécessaire à la production des marchandises est celui qu'exige tout travail exécuté avec le degré moyen d'habileté et d'intensité et dans des conditions qui, par rapport au milieu social donné, sont normales. Après l'introduction en Angleterre du tissage à la vapeur, il fallut peut-être moitié moins de travail qu'auparavant pour transformer en tissu une certaine quantité de fil. Le tisserand anglais, lui, eut toujours besoin du même temps pour opérer cette transformation. Mais dès lors, le produit de son heure de travail individuelle ne représenta plus que la moitié d'une heure sociale de travail et ne donna plus que la moitié de la valeur première. C'est donc seulement le quantum de travail, ou le temps de travail nécessaire dans une société donnée à la production d'un article, qui en détermine la quantité de valeur. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Dans les échanges, la valeur des choses utiles est réglée par la quantité de travail nécessairement exigée et ordinairement employée pour leur production. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Some thoughts of the interest of money in general and particularly in the public funds, etc. London, page 36, fermez la parenthèse. Ce remarquable écrit anonyme du siècle dernier ne porte aucune date. D'après son contenu, il est évident qu'il a paru sous Georges II, vers 1739 ou 1740. Fin de la note de bas de page. Donc, c'est donc seulement le quantum de travail ou le temps de travail nécessaire dans une société donnée à la production d'un article qui en détermine la quantité de valeur. Chaque marchandise particulière compte en général comme un exemplaire moyen de son espèce. Note de bas de page, ouvrez les guillemets. Toutes les productions d'un même genre ne forment proprement qu'une masse, dont le prix se détermine en général et sans égard aux circonstances particulières. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, le trône, Opsit, page 893, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, chaque marchandise particulière compte en général comme un exemplaire moyen de son espèce. Les marchandises dans lesquelles sont contenues d'égales quantités de travail ou qui peuvent être produites dans le même temps ont, par conséquent, une valeur égale. La valeur d'une marchandise est à la valeur de toute autre marchandise dans le même rapport que le temps de travail nécessaire à la production de l'une est au temps de travail nécessaire à la production de l'autre. La quantité de valeur d'une marchandise resterait évidemment constante si le temps nécessaire à sa production restait aussi constant. Mais ce dernier varie avec chaque modification de la force productive du travail qui, de son côté, dépend de circonstances diverses, entre autres, de l'habileté moyenne des travailleurs, du développement de la science et du degré de son application technologique, des combinaisons sociales de la production, de l'étendue et de l'efficacité des moyens de produire et des conditions purement naturelles. La même quantité de travail est représentée, par exemple, par 8 boisseaux de froment si la saison est favorable, par 4 boisseaux seulement dans le cas contraire. La même quantité de travail fournit une plus forte masse de métal dans les mines riches que dans les mines pauvres, etc. Les diamants ne se présentent que rarement dans la couche supérieure de l'écorce terrestre. Aussi faut-il, pour les trouver, un temps considérable en moyenne, de sorte qu'il représente beaucoup de travail sous un petit volume. Il est douteux que l'or ait jamais payé complètement sa valeur. Cela est encore plus vrai du diamant. D'après Eschweg, le produit entier de l'exploitation des mines de diamants du Brésil pendant 80 ans n'avait pas encore atteint en 1823, le prix du produit moyen d'une année et demie dans les plantations de sucre ou de café du même pays, bien qu'il représentât beaucoup plus de travail et par conséquent plus de valeur. Avec des mines plus riches, la même quantité de travail se réaliserait dans une plus grande quantité de diamants, dont la valeur baisserait. Si l'on réussissait à transformer avec peu de travail le charbon en diamant, la valeur de ce dernier tomberait peut-être au-dessous de celle des briques. En général, plus est grande la force productive du travail, plus est court le temps nécessaire à la production d'un article, et plus est petite la masse de travail cristallisée en lui, plus est petite sa valeur. Inversement, plus est petite la force productive du travail, plus est grand le temps nécessaire à la production d'un article, et plus est grande sa valeur. La quantité de valeur d'une marchandise varie donc en raison directe du quantum et en raison inverse de la force productive du travail qui se réalise en elle. Nous connaissons maintenant la substance de la valeur. C'est le travail. Nous connaissons la mesure de sa quantité. C'est la durée du travail. Une chose peut être une valeur d'usage sans être une valeur. Il suffit pour cela qu'elle soit utile à l'homme, sans qu'elle provienne de son travail. Tels sont l'air des prairies naturelles, un sol vierge, etc. Une chose peut être utile et produit du travail humain sans être marchandise. Quiconque, par son produit, satisfait ses propres besoins, ne crée qu'une valeur d'usage personnel. Pour produire des marchandises, il doit non seulement produire des valeurs d'usage, mais des valeurs d'usage pour d'autres, des valeurs d'usage social. Note de bas de page. Ouvrez la parenthèse et non simplement pour d'autres. Le paysan au Moyen-Âge produisait la redevance en blé pour le seigneur féodal, la dîme en blé pour la prêtraille. Mais ni le blé de la redevance, ni le blé de la dîme ne devenaient marchandises, du fait d'être produits pour d'autres. Pour devenir marchandise, le produit doit être livré à l'autre, auquel il sert de valeur d'usage, par voie d'échange. Fermez la parenthèse. J'intercale ici ce passage entre parenthèses parce qu'en l'omettant, il est arrivé souvent que le lecteur se soit mépris en croyant que chaque produit qui est consommé par un autre que le producteur est considéré par Marx comme une marchandise. Ouvrez la parenthèse. F, E, fermez la parenthèse. Ouvrez les crochets. Friedrich Engels, pour la 4e édition allemande, fermez les crochets. Fin de la note de bas de page. Donc, pour produire des marchandises, il doit non seulement produire des valeurs d'usage, mais des valeurs d'usage pour d'autres, des valeurs d'usage social. Enfin, aucun objet ne peut être une valeur s'il n'est une chose utile. S'il est inutile, le travail qu'il renferme est dépensé inutilement et conséquemment ne crée pas de valeur.